Chers amis, frères, sœurs, sentez-vous vraiment accueillis. Amen. Edith Vallée a souhaité être accueillie dans l'église protestante unie de Port-Royal, quartier latin, et c'est pour nous tous une joie de l'y recevoir. Aujourd'hui, Edith, je vous invite donc à vous approcher. Edith, vous avez été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez entendu l'Évangile. Cet Évangile est devenu pour vous une bonne nouvelle, c'est-à-dire il s'est traduit. Une parole vivante. Aujourd'hui, pour pleinement vivre votre confiance avec des sœurs et des frères, vous choisissez de devenir membre de cette Église, ici, à Paris. Edith, vous êtes ici la bienvenue, ainsi que tous les vôtres. Alors Edith, que demandez-vous ?
Je demande à être accueillie dans cette église.
Voulez-vous confesser la foi chrétienne ?
Oui, je le veux. Jésus-Christ est le Seigneur.
C'est une confession de foi. La confession de foi condensée, symbolique, très ancienne, c'est celle de toute l'église, en tout temps et en tout lieu. Eh bien, nous aussi, nous allons la proclamer maintenant, avec ces paroles qui affirment notre commune conviction. Chère assemblée, je vous invite à vous lever. Voulez-vous confesser la foi chrétienne ? Et si vous le voulez, vous pouvez dire après moi, « Oui, je le veux, Jésus-Christ est le Seigneur. » Voulez-vous confesser la foi chrétienne ?
Oui, je le veux, Jésus-Christ est le Seigneur.
Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Voici un geste maintenant qui est encore plus vieux finalement que la confession de foi qui vient d'être prononcée par Edith et par nous-mêmes. C'est le geste de l'imposition des mains. C'est pourquoi, pour procéder, j'invite les conseillers presbytéraux ici présents à venir autour de moi et à faire ce geste pour entourer Edith pendant que cette prière sera dite. Notre Créateur, nous te remercions pour les témoins de Jésus-Christ que tu as placés sur la route d'Édith jusqu'à ce jour. Accorde-lui ton Saint-Esprit et fais-la grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Pour nous-mêmes et pour notre Église, nous invoquons ta présence. Aide-nous à nous tenir ensemble sous l'autorité de Jésus-Christ. C'est en son nom que nous te le demandons. Et Amen.
Amen.
Je vous invite à regagner vos places, pas Edith, bien sûr. Ma sœur, nous vous recevons comme membre de l'Église protestante unie de France. En fraternelle et sororelle compagnie, vous êtes conviés et c'est un engagement que vous prenez maintenant, à approfondir votre foi par la lecture de la Bible et par la prière, par l'écoute et la pratique de la prédication, puisque vous êtes membre de l'atelier de prédicateurs, la participation à la scène. Vous êtes aussi invité à prendre part à la vie spirituelle, cultuelle, et particulièrement dans cette église culturelle, mais aussi, comme l'a rappelé le trésorier, matérielle de notre église. Vous êtes encouragé à mettre au service des autres les dons que vous avez reçus, et dans votre faiblesse, Dieu mettra sa force, il sera votre joie et votre paix. Sœurs et frères, nous qui accueillons Edith dans notre église, maintenant, dès maintenant, nous l'entourons de notre affection. Déjà, nous l'entourons de notre prière. Mais nous la soutiendrons encore par notre prière et par notre affection. Avec elle, nous participons à la mission de l'Église protestante unie de France et celle spécifique de Port-Royal, quartier latin. Quoi qu'il en soit, nous sommes appelés à être des témoins de la bonne nouvelle. À celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, de génération en génération, au siècle des siècles. Amen. Alors, tout en restant assis, et si vous êtes d'accord avec l'engagement qui vous a été proposé maintenant, si vous êtes d'accord, vous pouvez dire ce mot hébreu qui évoque la vérité et la solidité, et ce mot, c'est Amen. Êtes-vous d'accord ?
Amen.
Que le Seigneur nous soit en aide. Et maintenant, je vous invite à prendre notre feuille pour y chanter, accompagné par Fanny Cousseau, le psaume 119, les trois strophes. Et les choristes parmi nous, s'ils veulent chanter une autre voix que celle du soprano, eh bien, ils sont aimablement conviés déjà à se lever. C'est maintenant le temps du témoignage d'Edith Vallée.
frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7:7. Exactement ce qui s'est passé. Je recherche un lieu de tournage pour un documentaire sur les femmes migrantes. Comme le pasteur a priori dit oui, mais sous réserve de l'accord du conseil presbytéral, pour enfoncer le clou, je décide de revenir au temple le dimanche suivant. Et même si entre-temps, j'apprends que le tournage se fera ailleurs, eh bien j'y vais quand même. Le texte du jour, la présentation de Jésus enfant au temple. La prédication s'attarde autour de la prophétesse Anne, veuve, promise donc à la mendicité et au rebut de la société comme toute femme privée de protection masculine à cette époque et dans ce lieu. Anne est veuve depuis 7 ans après son mariage et à partir de ce jour-là, elle s'est dédiée au service du temple et s'est forgée ainsi une nouvelle place dans la société, devenue apte à expliquer les signes de l'invisible. Aux parents, elle parle de l'enfant et annonce la libération d'Israël, notre libération en fait, redonnant courage à toutes et tous. Anne vivra 84 ans, âge remarquable au 1er siècle. Cela prouverait peut-être que se tailler une place qui ne vous est pas échue a priori donne du punch pour toute la vie. Quand notre pasteur salue son trajet de femme, je me sens soulevée d'enthousiasme dans mon engagement pour le militantisme féministe et le matrimoine. En effet, dans le projet de participer au changement de regard de la société sur toutes les femmes, nous sommes nombreuses à vouloir mettre en lumière le legs des femmes du passé, le matrimoine, à côté du patrimoine, les œuvres des femmes que les historiens n'ont pas cru bon retenir. Que les femmes se contentent d'enfanter, c'est ce qu'elles ont de mieux à faire pour elles, lit-on en filigrane de cet effacement des femmes dans les pages de l'histoire. Je décide alors d'aller plus loin et de participer aux ateliers de prédication, puisqu'on peut y parler des femmes. Nous nous penchons sur les paraboles. La parabole du figuier stérile n'est pas venue à l'étude. Et quel bonheur de l'entendre si ça vient. Et j'ai toujours, pour moi, j'ai toujours pensé à ce figuier sans fruit. Oui, Jésus espère de nous des réponses inattendues, pas la routine, mais parce que je suis une child free, c'est-à-dire une femme qui a fait le choix de ne pas avoir d'enfant, cela me parle à moi très fort. Avec cette parabole, je retrouve mon autre engagement, la non-maternité. Faire reconnaître la légitimité des femmes à ne pas enfanter et le bonheur qu'il y a à se sentir pleinement femme et heureuse ainsi. À travers l'épisode de la malédiction jetée sur le figuier stérile, je découvre cette espérance de Jésus sur nous. D'autres fruits, des fruits de soi, sont à inventer. Intellectuellement, oui, je me sens en phase avec le christianisme et plus précisément le protestantisme. Mais là, ne réside pas la véritable raison de ma demande d'accueil, aujourd'hui, parmi vous. Certes, mon compagnon Bernard m'avait déjà fait franchir les portes de plusieurs temples, dans le Keras, refuge des protestants. Mais pour moi, tout a changé une fois ma première prédication prononcée au temple de Port-Royal, quartier latin, la prédication de la perle, Matthieu 13, 46. Le royaume de Dieu est comme un marchand qui a trouvé une perle d'une beauté telle qu'il vend tout ce qu'il a pour l'acheter. Et depuis, comme on ne sort pas indemne d'une prédication, je me dis, je suis ici parmi ces fidèles, mais parce que je ne peux pas faire autrement. Comme le marchand devant l'évidence, il lui faut mettre ce trésor dans sa vie. Je vous côtoie donc depuis 3 ans, et tout aussi discret que vous soyez, je voudrais que vous m'aidiez à avancer sur le chemin vers le royaume de Dieu. j'ai besoin de prier avec vous, de partager cette joie incompréhensible qui nous saisit quelquefois quand on est vraiment touché par une prédication. J'ai besoin de votre exemple. J'ai besoin d'être ensemble avec vous tous et toutes pour ensuite me sentir ensemble avec le monde. Enfin, quel qu'il soit, je parle là de la part du monde que Dieu met sur mon chemin. Je vous demande de bien vouloir accepter tout cela de moi que je vous ai dit. Et en signe de votre accueil, je désire recevoir la croix huguenote.
C'est pour ça que je faisais signe à Fanny de ne pas démarrer tout de suite. Alors cette croix huguenote, tu l'as trouvée, tu l'as voulue, tu te l'es offerte, mais tu as tenu aussi à ce qu'elle te soit remise au nom des pouvoirs qui ne me sont pas conférés, mais que je me fais un plaisir d'outrepasser au nom du conseil presbytéral. Voici cette croix huguenote, Edith, pour toi. Voilà. Et nous pouvons applaudir Edith. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce beau témoignage.
Seigneur, au moment de lire et d'interpréter les Écritures, envoie sur nous ton esprit. Qu'il éclaire notre lecture afin que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Qu'elle révèle la vérité de notre vie. Qu'elle nous réconcilie avec toi, avec nous-mêmes et avec les autres. Et nous lisons le texte du jour dans l'Évangile de Marc, chapitre 11, les versets 12 à 14 et les versets 20 à 22. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais, en y arrivant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il lui dit alors que plus personne jamais ne mange un fruit de toi. Et ses disciples l'entendirent. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier desséché depuis les racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, lui dit « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit s'est desséché. » Jésus leur dit « Ayez la foi de Dieu. »
Selon Marc, l'événement du figuier se déroule au lendemain de l'entrée de Jésus à Jérusalem, juché sur un petit âne, un âne qui trottine sur un chemin, que des gens qui accueillent Jésus comme le Messie parsèment de vêtements et de rameaux. Et la constatation ensuite du dessèchement de ce même figuier intervient après que Jésus était retourné à Jérusalem pour chasser les vendeurs du temple. Voilà ce qui est sans nul doute proposé par le rédacteur, donc Marc, comme une matrice explicative de cet acte quasi insensé de Jésus, de cette effective parabole en acte. Et je vous en propose une interprétation à trois niveaux. Trois niveaux destinés à vous faire parler éventuellement après, au moment du repas, si vous le souhaitez. Donc Jésus a faim. Il veut manger une figue de ce figuier en pleine santé, mais ce n'est pas le temps des figues. Jésus maudit le figuier. Jésus vient la veille donc d'être accueilli triomphalement à Jérusalem. Les gens avaient faim de libération et ils ont vu en Jésus leur sauveur. Mais c'était un accueil à contre-temps. Les gens ont faim, mais la puissance mondaine et l'inertie générale va faire que Jésus ne va pas les libérer de la tyrannie romaine, ni même du pouvoir de ceux qui ont cadenassé le temple. Les mêmes qui le vénèrent aujourd'hui le maudiront demain et le pendront à un bois mort comme un fruit mort. Et Jésus, sans nul doute, le sait. C'est lui, le figuier. Paul, dans sa lettre aux Galates, l'a bien et tout de suite, quelques décennies après, l'a très bien compris quand il dit, quand il écrit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois. » Jésus tentera ensuite de faire fuir les marchands du temple pour que la maison de prière, appelée maison de prière pour toutes les nations, ne soit plus ce qu'elle est devenue selon ses propres termes, à savoir une caverne de bandits. Et ensuite, on constate que le figuier est desséché, qui devient à ce moment-là, et cette fois, une autre métaphore, la métaphore du temple lui-même desséché. Voici le premier niveau. Voilà le premier niveau, et voici le deuxième. Jésus reproche au figuier de ne pas fournir son fruit en toute saison. Et on l'aime bien, Jésus, quand il fait ça. Ce qui, a priori, est injuste. C'est injuste. Vous en conviendrez. Sauf si on se souvient de la passion de Jésus pour la bonne nouvelle de Dieu. Cette bonne nouvelle est censée donner du fruit en toute saison et à n'importe qui ayant faim. Or, la religion desséchée dans laquelle baigne le peuple, à cette époque, soumet celui-ci, ce peuple, à une armée de conditions, de pratiques, de temporalités diverses, de sacrifices, de critères, de barrages, si bien que la bonne nouvelle de Dieu est rare et que le peuple reste sur sa faim. La bonne nouvelle, la grâce de Dieu, doit être tout le temps disponible et gratuite. Elle ne connaît pas de saisonnalité. La résurrection du Christ sera la brèche qui va rendre permanente la proposition de la bonne nouvelle. Et voici le troisième niveau. Et nous y sommes. Non, il n'y a pas de saison particulière pour recevoir l'Évangile. Cette saison, ce n'est pas spécifiquement ni l'enfance, ni la maturité, ni même la vieillesse. De même, plus prosaïquement, l'Évangile, ce n'est pas qu'à Noël et à Pâques, comme on dit, qu'on va pouvoir le recevoir. Chaque instant de notre vie peut devenir un moment favorable pour accepter cette bienheureuse proposition. De même, il n'y a pas de saison particulière pour partager l'Évangile. Notre Église, je l'ai rappelé tout à l'heure, est un service, et celui-ci est permanent. Pouvons-nous imaginer le ressentiment de quelqu'un qui a décidé un dimanche, parce qu'il avait faim, d'aller au culte et qu'il trouve le temple fermé, avec un panneau qui lui dit qu'à l'heure où il lit ce panneau, il peut quand même trouver un culte ailleurs, à la même heure, et parfois dans certaines nombreuses régions de France, à 40 kilomètres. Alors, si cette personne est parisienne, elle se fera peut-être une raison d'arriver en retard ailleurs, puisque effectivement, il y a un temple à côté, pas très loin. Mais si cette personne est dans une campagne où le culte se déplace chaque dimanche, faute d'engagés et de pasteurs, sans doute, elle va rester, cette personne, sur sa faim. Et peut-être, elle ira maudire. Voilà ce que raconte cette histoire de figuier. Elle raconte l'exigence de la responsabilité du service de l'Évangile à être disponible en tout temps pour accueillir celui ou celle qui vient à rendez-vous. Et évidemment, je ne parle pas d'une disponibilité de tout le monde en permanence. Ce serait une horreur, mais une disponibilité permanente du service de l'Église. C'est pour cela que notre Église à nous doit se doter de forces supplémentaires pour ne pas risquer de devenir un figuier décevant pour quelqu'un qui chercherait la bénédiction d'un fruit savoureux et sucré. Comment y arriver? En ayant la foi de Dieu, recommande Jésus. Amen. Et voici maintenant le temps, le moment de l'offrande, un temps partagé. Que le Seigneur bénisse ce moment de l'offrande.